Allez, nous sommes habitués maintenant. Le passé que l'on commémore est un passé mort. Nous avons déjà commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale sans rien comprendre à l'Ukraine, puis évoqué le génocide arménien sans faire le lien avec les chrétiens d'Orient. Voici maintenant les valeurs de la résistance sans l'indépendance de la presse. Bah oui, le jour où quatre résistants entrent au Panthéon, on apprend que le dernier quotidien français national cesse d'être indépendant. Avec le rachat du Parisien par LVMH, il ne reste plus de quotidien indépendant si l'on met de côté La Croix et l'Humanité. Plus encore, pratiquement toute la presse nationale appartient aujourd'hui à des oligarques, qu'ils soient de droite, de gauche ou qu'ils s'en moquent. En somme, la presse n'a plus à être achetée puisqu'elle est vendue. Une belle manière de rendre hommage au Conseil national de la résistance qui expliquait la défaite pour partie par l'absence d'indépendance de la presse, d'où les lois sur la presse en 39. À la fin de la guerre en 45. Plus aucun titre rentable, c'est le signe que notre démocratie d'opinion n'est plus viable. Un peu comme si l'on remplaçait le suffrage universel par le suffrage censitaire, un suffrage où seuls votent les riches. Car pourquoi des oligarques investiraient-ils dans la presse, dans une presse dont ils n'attendent aucun profit direct, s'ils n'escomptaient pas, d'une manière ou d'une autre, peser sur le débat d'idées? Aujourd'hui, bien sûr, la rédaction du Parisien est indépendante, mais demain, qui garantira qu'elle le demeure? Qui garantira qu'elle le demeure sur tous les sujets? C'est un très beau symbole de rendre hommage à nos résistants morts, mais maintenant qu'ils sont morts, il ne reste plus qu'à nous rappeler pourquoi ils ont vécu.
France Inter, service public, Guillaume Herner.
Pourquoi le burn-out nous consume-t-il? Nous sommes en compagnie, comme tous les mercredis, de notre camarade Serge Effez, qui est notre psy du mercredi. Bonjour Serge.
Bonjour.
À côté de lui se trouve Guy Birenbaum. Bonjour Guy.
Bonjour.
Vous êtes notre camarade journaliste à France Info et vous publiez Vous m'avez manqué, histoire d'une dépression française. C'est le récit de votre burn-out et c'est publié aux éditions Les Arènes. Et puis notre camarade hôte Célie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante en prévention des risques psychosociaux et en burn-out. Et si vous en parlez, si vous avez décidé de prévenir ces risques, Aude, c'est tout simplement parce que cela vous est arrivé. Vous en parlez dans un livre intitulé « Quand le travail vous tue », publié aux éditions Maxima. Vous aviez alors trouvé une place de gestionnaire des ressources humaines et progressivement, assez rapidement même, vous êtes trouvé face à une masse de travail inconsidérée qui vous a conduit à l'effondrement. Dans quelles circonstances?
Effectivement, déjà, ce qui est important de dire, c'est que la majorité des personnes qui font un burn-out sont passionnées par leur travail. Et moi, ça faisait un peu plus d'une douzaine d'années que je rêvais d'avoir ce poste-là. Donc au départ, je parle souvent, le processus du burn-out reste quand même... Voilà, ça ne se fait pas en une semaine ou 15 jours. J'ai été soumis à un stress que je dis exagéré pendant... à peu près 3 ans et demi, 4 ans, et au départ, voilà, donc dès le premier mois, parce que j'ai commencé un 12 novembre 2008 en tant que responsable RH, j'étais sur un poste généraliste avec plusieurs domaines de compétences, dont gérer la paye, et donc je suis rentrée un 12 novembre, le 25 novembre je devais envoyer des informations avec une tension de sociale dans l'entreprise très compliquée, parce que j'étais la quatrième sur le poste, et j'ai dû faire facilement 2-3 nuits blanches parce que j'ai été formée 4 heures sur le logiciel que je devais gérer. Voilà, donc j'ai eu beaucoup d'éléments qui m'ont poussé.
Et vous racontez effectivement un rythme absolument infernal, une sorte de spirale dans laquelle vous êtes en quelque sorte vous-même enfermé, c'est-à-dire que vous ne réussissiez pas à sortir la tête de l'eau. Guy Birenbaum, vous, votre histoire est différente. Vous êtes journaliste, vous étiez alors journaliste, et votre burn-out, c'est un cocktail assez complexe de stress lié à votre profession et de stress lié aux réseaux sociaux. Expliquez-nous en quoi.
Comme Aude, je travaillais trop, ça c'est une certitude, puisque moi, mes horaires, une journée, ça commençait à 4h, 4h30 et ça se terminait à minuit environ. Donc déjà, il y a trop de travail et un travail dans lequel on ne fait pas toujours forcément ce qu'on a exactement envie de faire pour ce qui me concerne. Deuxième élément qui est important pour moi, c'est que j'étais devenu un spécialiste effectivement du web et des réseaux sociaux. Et que le web et les réseaux sociaux, que j'ai vu comme une espèce de planche de salut professionnel, c'est un territoire extrêmement compliqué, un territoire qui amène à une forme de violence que moi-même j'ai utilisée dans mon mode d'expression, puisque j'écrivais notamment des billets tous les jours sur le site Le Huffington Post dirigé par Anne Sinclair, et que j'étais assez brutal, assez violent moi-même, et que suite à un enchaînement de circonstances qui dépasse de loin l'unique cadre professionnel, parce que je pense que la particularité de mon mal, c'est qu'il vient de très 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 loin, et que effectivement j'ai été d'abord diagnostiqué en burn-out par la généraliste qui a pris la décision de m'arrêter, puisque étant à l'antenne sur une radio concurrente, j'ai fait un arrêt de travail, un vrai arrêt de travail de 2 mois. Mais ensuite, je suis parti en psychothérapie avec un psychiatre psychanalyste qui, lui, a été assez certain, et je pense qu'il a raison, qu'on était en face depuis très longtemps d'une dépression, et dont le burn-out uniquement professionnel ne suffisait pas à rendre compte.
On va justement essayer de comprendre les causes de ce burn-out, Guy Birenbaum. Qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle et familiale, peut expliquer la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé, et évidemment une situation vis-à-vis de laquelle vous n'aviez aucun moyen de lutter. Mais tout d'abord, on va écouter Isia La Vague, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin.
Service public sur France Inter. Pourquoi le burn-out nous consume-t-il? Nous sommes en compagnie de notre psy du mercredi, Serge Effèze, de Guy Birenbaum, qui publie « Vous m'avez manqué, histoire d'une dépression française » et d'Aude Célie, consultante, qui anime le site mission-rh.com et qui a publié « Quand le travail vous tue » aux éditions Maxima, une définition du burn-out. Serge Effèze, comment savoir que l'on souffre de burn-out ou de surmenage, nous propose un auditeur?
de surmenage ou d'épuisement. Et vous faites bien de poser cette question parce que ça n'est, les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur la question du burn-out. Ça n'est ni une maladie psychiatrique à proprement parler, ni une maladie professionnelle reconnue par la CPAM. Donc il y a, et on voit bien aujourd'hui d'ailleurs, que les politiques s'en emparent pour pouvoir lui donner une visibilité. Donc il y a un épuisement. Épuisement, ça veut dire qu'on arrive au bout de ses ressources, au bout de ses capacités. Arriver au bout de ses ressources et de ses capacités, ça veut dire qu'on se replie sur soi, qu'on perd totalement confiance en soi-même, qu'on est au bout de la fatigue, au bout du sommeil, dans un sentiment de vide et de tristesse. Mais il faut voir que le corps et l'esprit, c'est des choses qui sont intimement liées, bien évidemment. Il n'y a pas d'un côté un esprit qui s'épuise et de l'autre côté un corps qui continue à fonctionner. Ça veut dire que cet épuisement, c'est aussi un épuisement des ressources intérieures, de ce qui nous permet d'agir, de ce qui nous permet d'être en mouvement, c'est-à-dire ce qui fait fonctionner notre système nerveux, les neurotransmetteurs qui nous permettent de ressentir simplement du bien-être ou simplement de fonctionner normalement. Cet épuisement des neurotransmetteurs, de noradrénaline, dopamine, sérotonine, etc., on le connaît, c'est ce qui caractérise la dépression. C'est-à-dire que ça n'est plus dépendant de la volonté du sujet. Il ne s'agit pas de lui dire « secoue-toi » ou « prends des vacances, ça va aller mieux ». Ça veut dire que le corps ne peut plus réagir et que c'est le corps qui prend la commande de l'esprit.
Guy Birenbaum.
Pour rebondir sur ce que dit très brillamment Serge Eiffez, moi c'est mon corps qui a lâché. Il faut bien comprendre ça. Ce qui s'est passé d'abord, c'est que étant dans la négation personnel et intellectuel, on va dire, ou moral de ce qui se passait, j'ai commencé par avoir des douleurs au ventre, des douleurs au dos, des palpitations et des transpirations nocturnes. Tous
Est-ce
ces
que
signes,
vous étiez hypochondriaque avant?
Jamais. En aucun cas. Et je le suis devenu pendant cette période. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, on a un déficit quelque part. On parle de chimie. Et c'est le corps qui lâche avant la tête.
Otseli.
Oui, effectivement, je suis d'accord avec la définition. Mais j'allais dire tout simplement, le burn-out, c'est un épuisement physique. D'abord physique, parce que c'est un des premiers symptômes qui fait qu'on va consulter un médecin. Effectivement, ça peut être mal de dos, etc. Donc il est physique, il est mental et il est émotionnel. Et effectivement, Guy a très bien donné les premiers symptômes qu'on peut ressentir pour un burn-out.
Un tweet qui nous dit « Parler de burn-out, de surmenage avec 20% de chômage, c'est comme parler d'obésité à ceux qui crèvent de faim. » Guy Birenbaum.
On a l'habitude de recevoir des messages agréables sur les réseaux sociaux, mais ça montre une méconnaissance totale, parce que tout ça est justement lié. C'est-à-dire, ce que raconte Aude, par exemple, moi je ne vais pas parler de mon cas, on va aller sur le cas de Aude, comme ça je serai plus décontracté, c'est pourquoi elle a une telle pression. Pourquoi c'est si difficile ce qu'elle doit faire? Parce que dans l'univers concurrentiel de marché, de trop dans lequel on est, si on n'est pas super efficace, si on n'est pas le meilleur, si on n'est pas le plus rapide, si on n'est pas le plus fort, bah il y a combien de personnes qui attendent pour prendre la place? Donc c'est idiot, ça va ensemble, bien évidemment.
Otseli, c'est effectivement vous-même qui vous mettiez la pression, puisque je rappelle que vous veniez travailler le week-end.
Oui, mais attendez, moi je tiens à dire qu'il faut arrêter d'être hypocrite, parce que le contexte de l'entreprise nous pousse au surengagement.
Mais oui.
Et je vais donner un exemple, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Dans ma société où je travaillais, l'évaluation, il y avait plusieurs degrés, c'était inacceptable, très insuffisant, satisfaisant. Très satisfaisant et exceptionnel. Qui ne rêve pas, en tant que salarié, d'avoir son manager en face qui dit « Bravo, tu es exceptionnel » et en plus, c'est lié à l'augmentation de salaire. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'entreprise, entre le management, je pourrais en parler pendant des heures, qui nous poussent au surengagement.
Serge Eiffez, je ne vous jugerai pas, vous n'êtes pas sous pression, mais essayez de répondre.
Vous-même qui travaillez très peu, Guillaume, vous ne connaissez pas évidemment tout ça, mais un des éléments, me semble-t-il, majeur, c'est que les frontières entre la vie professionnelle et la vie privée se sont estompées de plus en plus via les écrans, les smartphones, Internet, etc., qui fait que on travaille en permanence et que le nombre de salariés et d'employés qui continuent à travailler chez eux, ils se disent « Allez, on va travailler un petit quart d'heure, je vais reprendre un petit courrier que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui » et qui, en fait, travaillent des heures chez eux, travaillent la nuit, se réveillent tôt le matin, etc. Ça participe énormément à cet épuisement.
Nous avons Stéphanie au téléphone qui nous appelle de Nantes. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Stéphanie.
Moi, je suis aide-soignante dans un centre de soins de la Croix-Rouge et la charge de travail ne permettait pas d'exécuter le nombre de personnes, je veux dire, de personnel hein, par rapport à la charge de travail ne permettait de toute façon matériellement pas de faire le travail dans de bonnes conditions. Donc, face à ça, j'ai été critiquée par rapport à mon rendement, si vous voulez, par certaines personnes, parce qu'en fait, dans ce contexte-là, dans le domaine du soin et de la santé, vous retrouvez, en tant qu'aide-soignant, avec deux camps. Ceux qui vont très vite, qui arrivent à bâcler, entre guillemets, à aller, voilà, à pas peaufiner, à pas... et ceux qui n'y arrivent pas. Donc, ça vous fait une espèce de pression à vous, en vous disant, ben, j'y arrive pas, comment je vais faire, etc. Et du coup, ça fait deux camps. Et ça fait une espèce de guerre, vous voyez. Alors du coup, vous avez encore plus la pression. Il y a la charge de travail et l'ambiance qui vous met une espèce de pression. Et puis au bout de 6 mois, j'ai craqué. Et j'ai entendu récemment, je crois que c'était Patrick Peloux, parler du pourcentage de burn-out dans le métier, dans les métiers d'ailleurs, pas que les aides-soignants, de la santé et du soin. Et je crois que c'est très très important, enfin c'était énorme le chiffre qu'il a donné, et que
c'est un pourcentage très important, et on entend effectivement dans votre voix la tension et la fatigue. Guy Birenbaum, vous vouliez réagir au témoignage de Stéphanie.
Je reçois, depuis que le bouquin est sorti, environ, et je suis pas Marc Lévy ou Guillaume Musso, 3 ou 4 mails par jour, ce qui est beaucoup, de gens de tous les milieux professionnels, pour continuer à répondre à notre petit camarade qui nous parle du chômage. De gens tous dans la même situation, qui tous, quel que soit le milieu, que ce soit des enseignants, que ce soit des cadres fatigués, que ce soit une aide-soignante, que ce soit quelqu'un qui cherche du travail, parce qu'il faut pas croire que les gens qui cherchent du travail ne sont pas sous pression, eux aussi, parce que croyez-moi, avec ce qui se passe à Pôle emploi, on peut aussi ressentir de mêmes symptômes en n'ayant pas de travail. Et tous ces mails me disent la même chose et me disent c'était trop. On est, voilà, c'est le trop qui nous tue.
Aude Célie, lorsqu'on parle de tuer, vous avez cherché à vous tuer au terme de cet épisode.
Effectivement, je voudrais juste revenir sur le témoignage de Stéphanie. On entend bien là les contraintes organisationnelles et la structure de l'entreprise qui pousse effectivement, encore une fois, à la fatigue. Et je ne suis pas étonnée de ce que dit Stéphanie en parlant de sous-effectifs. Moi, j'ai été amenée à réduire les effectifs dans l'entreprise de 20% parce qu'il fallait faire du chiffre d'affaires. Donc, pour en parler de ma tentative de suicide, je reviens à la définition physique, épuisement physique, mental et émotionnel. J'étais arrivée à un tel état d'épuisement que il n'y avait qu'une chose que j'espérais, c'était que ça s'arrête immédiatement. Je n'ai jamais prémédité ma tentative de suicide et je n'ai jamais eu aucun antécédent psychique. Donc, je voulais une solution immédiate et voilà. Donc, j'ai fait ce geste extrême.
Ce geste, effectivement, désespéré. Serge Effez, sommes-nous tous égaux dans ces situations? C'est-à-dire que soumis à ces pressions, alors on a le cas de Guy Birenbaum qui s'est en quelque sorte mis dans une situation où il était sans cesse sous pression. Aude Célie qui était victime d'une pression de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certaines personnes font-elles des burn-out tandis que d'autres régulent mieux leurs relations au travail?
Et bien évidemment, on est tous égaux devant rien du tout. C'est-à-dire qu'on a tous des histoires particulières, des constitutions particulières, des gènes particuliers qui font qu'on va être plus ou moins susceptible de faire une dépression, de faire un épuisement. On le sait bien. Mais justement, en matière psychique, on ne peut pas raisonner en termes de causalité simple. C'est parce qu'il m'est arrivé telle chose dans mon enfance. C'est parce que mon travail est tellement difficile. C'est parce que j'ai eu un chagrin sentimental que les choses arrivent. C'est plutôt des facteurs de risque. C'est des facteurs qui s'engrènent les uns les autres, et qui font que la difficulté qu'on vit aujourd'hui vient retrouver quelque chose, des failles qui sont aussi à l'intérieur de soi et qui s'amplifient. Mais justement, la réflexion sur le burn-out est intéressante parce que on va réfléchir à ce qui met plusieurs personnes, tout un tas de personnes qui n'ont pas les mêmes biographies, qui n'ont pas les mêmes histoires, qui n'ont pas les mêmes gènes, quasiment sur un pied d'égalité. Et là, c'est vrai que si on donne des énormes coups de marteau sur la tête de personnes, eh bien, ça va leur défoncer le crâne de la même façon, quelle que soit leur histoire.
Guy Birenbaum, vous risquez dans votre livre « Vous m'avez manqué, histoire d'une dépression française », vous risquez à une explication vous concernant?
Ah ben, tout à fait, puisque moi, pour ce qui, encore une fois, moi, je me pose pas la question, est-ce que burn-out, est-ce que dépression? Moi, la question, elle a été réglée par le psychiatre, psychanalyste en face de qui je me suis trouvé et qui m'a fait lâcher prise, je crois que c'est comme ça qu'on dit, docteur. Au bout de 14 minutes, la première fois que je suis entré chez lui, alors que j'étais la personne la plus réticente à ce genre d'auto-analyse, alors pour le coup, c'était pas de l'analyse, c'était de la psychothérapie, et en 14 minutes, le sujet qui est venu sur le tapis est un sujet personnel et familial. Et le travail l'épuisement professionnel était là, effectivement, mais c'est dans mon histoire personnelle, alors ce serait trop long à expliquer ici, et ce n'est pas le cadre, mais c'est ce que je fais longuement dans le livre, que, comme le disait le docteur Ephèse, dans cet ensemble, moi j'appelle ça une lasagne, voilà, il y a plein de couches. C'est toutes les couches de la lasagne. Dans cet ensemble de couches qui m'ont entraîné vers le bas, eh ben, il y avait une dimension aussi personnelle, professionnelle, internet, etc., etc.
Nous prenons un autre témoignage, celui de Claire, qui nous appelle du PEC dans les Yvelines. Bonjour Claire.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Claire.
Alors, bah, justement, parlant de lasagne, je vais parler de mon mari qui avait beaucoup de couches de lasagne et qui a fait 2 burn-out. Mmh. Alors, moi, je voulais témoigner parce que pour moi, le burn-out, c'est devenu très à la mode, mais pour moi, le fond du problème, c'est ce que vous expliquiez juste avant, c'est qu'effectivement, il a un fond, alors, je sais pas si c'est un fond dépressif, une histoire familiale, et qui a fait que c'est un homme qui a toujours voulu se donner à 200% dans le travail. La valeur travail, c'est sa valeur numéro 1. Maintenant, il est directeur financier. Avant, il a travaillé comme consultant chez Deloitte, donc il avait énormément de pression. Et donc, à la fin de son travail chez Deloitte, il a craqué. À l'époque, il a vu un médecin qui gentiment lui a donné du déroxate.
Donc un antidépresseur.
Voilà, très fort, qui est fait pour. Alors, je sais pas, j'y connais pas grand-chose, mais qui a fait qu'il a pu remonter la pente. Et il est allé voir un psychiatre.
Vous ne travaillez pas pour un labo, hein, Claire ?
Ah non. Non, mais bon, je préfère donner le nom parce que c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas, moi, mon mari, c'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien au départ, mais on a eu beaucoup de difficultés de couple suite à ça parce que, bon, déjà, il était dans sa bulle, dans une bulle chimique. Moi, je suis suivie en psychanalyse depuis une dizaine d'années. J'ai jamais eu besoin de médicaments, mais la grande difficulté, c'était que justement, on n'arrivait absolument plus à communiquer parce qu'il était aidé par ce produit. Et il a voulu arrêter puisqu'il se sentait mieux, on était mieux. Donc il a arrêté tout doucement avec l'aide d'un généraliste. Et ce généraliste l'a fait donc réduire progressivement les doses jusqu'à novembre dernier. Où là, il a complètement arrêté et il a recommencé les insomnies, le stress, les crises d'angoisse. En janvier dernier, bah, il devait aller pour son travail à Bruxelles et il n'y est pas allé. Voilà, il est revenu et il est resté comme une loque dans le canapé. Et là, je me suis dit, moi, très égoïstement, ça y est, enfin, c'est la bonne. Il va vraiment prendre le taureau par les cornes et aller voir quelqu'un. Et ça a été le cas. Donc maintenant, ça y est, il est suivi. Il va voir un psychiatre qui l'aide justement à l'accompagner sur son traitement pour essayer d'arrêter doucement. Et il va voir un psychanalyste qui m'a été recommandé.
Et donc voilà, vous pensez qu'effectivement, c'était en quelque sorte la bonne solution, Guy Birenbaum.
Et là, encore une fois, je me tourne vers Serge Ephèse car je ne prétends à rien, je n'ai aucune compétence. Mais le médicament sans le psychiatre, sans la psychothérapie, je crains que malheureusement ce soit la démonstration qu'on ne peut pas se faire accompagner.
De la même façon que la psychothérapie sans le médicament, ça quand on est arrivé à trop d'épuisement, ça ne peut pas fonctionner.
Mais voilà. Serge Ephèse, finalement, ce que dit en quelque sorte Claire dans son témoignage, c'est peut-être qu'il y a une dépression chez son mari, que cette dépression, elle s'actualise en quelque sorte suite à une situation de travail compliquée, mais finalement, le burn-out, le surmenage, n'est-ce pas l'affaire de gens qui ont en réalité une dépression à soigner ?
Non, pas du tout, parce que, encore une fois, il faut voir des cascades de cause à effet. Exactement. Davantage que des causalités. Les cascades de cause à effet, Claire l'a très très bien décrit, c'est-à-dire qu'il y a l'épuisement professionnel, il y a donc quelqu'un qui se retire peu à peu dans une bulle, et puis ça crée des problèmes conjugaux, et les problèmes conjugaux viennent évidemment majorer les questions d'angoisse ou de dépression, etc., etc. Donc toutes les choses s'engrènent les unes dans les autres. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les études montre que par rapport à la dépression, parce qu'on est quand même dans une situation de dépression au sens où il y a dépression à la fois physique et psychique des ressources du corps, eh bien, ce qui marche le mieux, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'alliance des médicaments avec la psychothérapie. Les médicaments remontent le corps, font sortir de l'épuisement. Mais si on n'a pas fait un petit travail pour savoir qu'est-ce qu'on a engagé de soi dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans cette situation-là d'épuisement, quel est notre rapport à la performance, quelle est notre la façon dont nous nous mettons, dont nous pouvons surmonter ou pas les obstacles, etc. Eh bien, si on ne travaille pas là-dessus, on va rechuter immédiatement.
Julien Clerc, laissons entrer le soleil. On l'écoute, Julien Clerc, et tout de suite après, on continue à évoquer le burn-out, autrement dit le surmenage.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Silence me répond en secret. Burger, j'ai l'impression de mourir.
Claude,
Claude,
Claude.
Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique.
Service public sur France Inter, le burn-out. On en parle en compagnie du psy du mercredi, Serge Effèze, et de deux témoignages, celui d'Aude Célie, quand le travail vous tue, son burn-out, suite à un emploi dans une entreprise où elle gérait les ressources humaines, et Guy Birenbaum, journaliste à France Info, qui publie lui aussi le récit de son burn-out. Vous m'avez manqué, histoire d'une dépression française. Bonjour Raphaël Mantoux.
Bonjour.
Vous êtes rendu dans un établissement de santé dédié à des policiers en plein burn-out. Et oui, ça existe.
Oui, dans l'établissement Le Courbat, au sud-est de la Touraine, à l'Aube, dans les 82 hectares de forêt, des policiers, des gendarmes et des gardiens de prison en civil se promènent le long des étangs. Un morceau de pain à la main, ils s'apprêtent à nourrir les canards avant de se présenter à l'appel de 9h. L'établissement reçoit depuis quelques années ses patients victimes d'épuisement professionnel. Le séjour dure un mois, chaque journée est minutée, équithérapie, art thérapie, ping-pong, séance avec le psychologue, tout est fait pour que les patients sortent de leur chambre.
Ben, je vais faire appel et je donne les prénoms. Hervé, présent. Manuel, présent. Sébastien, présent. Bernard, présent. Christian. Présent. Donc ce matin, c'est atelier de création et activité thérapeutique. Et à savoir que pour ceux qui veulent des cigarettes, vous passez au bureau
à l'issue de l'appel.
Donc je suis gardien de la paix depuis quelques années. Et en fait, je suis là par rapport à un burn-out. Ici, la thérapie se base, donc bon, il y a le corps médical. Et après, tout se base sur le sport, qu'on reprend confiance en nous. Et c'est comme ça qu'on combat la maladie. C'est grâce à ça que j'arrive à surmonter l'épreuve. On ne reste jamais dans nos chambres, on est toujours occupé. Il y a quelques hectares de forêt, parcours de santé. Il y a des lacs, quoi, pas des lacs, des petits étangs pour pêcher.
Vous êtes venu ici la première fois pour quelle raison ?
Pour de l'anxiété, liée au travail, donc des conditions de travail, du manque de solidarité qu'on pensait trouver dans la police en y rentrant et au final on se rend compte que ça n'existe pas. Donc la hiérarchie qui nous abandonne, j'ai perdu de 10 kilos à peu près en une semaine, j'arrivais plus à m'alimenter et pareil, j'arrivais plus à dormir. J'ai eu des décès dans mon entourage. Donc j'ai vécu une première minute de silence pour un collègue décédé en service que je connaissais. Donc c'est quelque chose qui m'a affecté personnellement. Donc là où on se pose des questions, on a des nuits agitées. Et puis il est arrivé les attentats. Au niveau des attentats, on était pas vraiment en première ligne, mais on était sur les recherches quand vraiment ça s'est passé. Et j'ai eu ce coup de téléphone de ma cousine qui connaissait un des policiers abattu en pleine rue. Ça a été un phénomène encore qui m'a un peu traumatisé. Mais sur le moment, on ne s'en rend pas compte. En fait, on garde tout ça à l'intérieur. Pendant les attentats, pendant la recherche des individus, on était sur certaines missions où on protégeait une personnalité. On entend une détonation à côté de nous. Donc à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était. Les individus étaient annoncés à quelques kilomètres de notre point. Un stress en plus, on ne sait pas ce qui va arriver. Comment dire, on a nos proches qui nous appellent en pleurs, qui demandent de nos nouvelles. On ne peut pas forcément répondre parce qu'on est sous tension. Toute la semaine, on avait l'arme sortie. Je ne suis jamais sorti sans mon arme à la main. Donc pendant l'attaque de l'hypercachère, deuxième situation un peu qui a été traumatisante, une voiture, donc on bloquait le périphérique, une voiture qui force le passage. Avec quatre individus barbus à l'intérieur, qui sortent leur tête des fenêtres et qui frappent fort sur la carrosserie en passant à vive allure. Je pointe les individus, mais le temps de réaction, les individus étaient déjà passés, avaient passé le barrage qu'on avait effectué. Effectivement, si les mecs étaient armés, j'étais mort. Tout ça, ça a fait du surmenage. Après, je me suis imposé des objectifs, toujours plus. Il faut que j'y arrive, donc je commençais à me préparer pour les tests du RAID. Donc une semaine d'insomnie, quelques crises d'angoisse.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes imposé ce surmenage ?
J'arrive pas à l'expliquer. Je pensais toujours que c'était rien, que j'étais plus fort que ça et que ça pouvait pas m'affecter. Et en fait, on s'en rend pas compte, ça nous tombe sur le coin de la gueule comme ça. Moi, j'étais plus bactère. Donc déjà, j'étais à côté de mes pompes, je ne savais pas trop ce qui se passait. Après, on se pose des questions sur soi-même. Est-ce qu'on est quelqu'un de bien ? Est-ce que ça apporte quelque chose de ce que je fais ? Donc il y a plein de questions, on remet un peu tout en cause. Je n'ai pas envie de rester dans la même optique de travail.
Là-bas, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, stop !
Donc aujourd'hui, l'établissement Le Courbat compte 70 patients, dont 5 sont traités pour épuisement professionnel. Certains reprennent leur activité après le séjour et parfois d'autres choisissent la reconversion professionnelle.
Merci Raphaël Mantoux pour ce reportage. Haute-Célie, on est évidemment loin de votre univers professionnel puisque vous travaillez dans les ressources humaines. Mais le témoignage de ce policier, que vous inspire-t-il ?
Il m'inspire deux choses. La première, c'est que je remercie d'avoir fait passer ce témoignage, parce qu'il y a des secteurs, tous les secteurs aujourd'hui sont concernés, quel que soit le niveau hiérarchique, mais il y a des professions qui sont peut-être un peu plus exposées que d'autres. Donc effectivement, et puis c'est toujours tabou, hein, chez les policiers, effectivement, on n'en parle pas forcément, chez les pompiers, on est surtout dans des métiers qui demandent un engagement moral et un engagement émotionnel qui important, qui fait qu'effectivement, on court vers le burn-out tellement on est épuisé. Et la deuxième chose, c'est que peut-être que c'est pas le même métier, mais ce que j'entends, c'est que c'est, encore une fois, ce sont les conditions de travail qui nous ont poussé, enfin qui l'ont poussé effectivement, et c'est très important parce que pourquoi est-ce que les personnes s'investissent? Alors, on va pas parler de l'enfance et de la culture de la performance quand on avait des bons points ou des bonnes notes, félicitations, etc. Mais pourquoi est-ce que je me suis autant investie dans mon travail? Pour moi, c'est la clé de la reconstruction.
Mais vous avez une réponse?
Oui. Et la réponse pour moi, c'était lié à la sécurité financière. Pour moi, je me suis investie dans mon travail parce que, voilà, effectivement, pour gagner de l'argent, je me disais, bon, il faut évoluer. Plus tu évolues, plus tu vas gagner de l'argent. Donc forcément, il faut que je fasse mes preuves. Forcément, il faut que je donne tout. Et puis, voilà.
Et vous, Guy Birenbaum, que c'est très étonnant quand on lit votre témoignage, vous m'avez manqué, histoire d'une dépression française. Vous êtes complètement accroché aux réseaux sociaux. Vous, vous expliquez à quel point cela fonctionne comme une drogue. Et à la fois, vous vous rendez compte de l'inanité de ce monde-là.
A posteriori, Guillaume. Oui. Je m'en rends compte a posteriori.
Ça veut dire que vous aviez les moyens intellectuels de vous en rendre compte le moment présent.
Oui, mais non, parce que, comme le dit Alice, justement, on est totalement dans le déni. Et que surtout, je viens d'entendre de manière très intéressante cette considération financière. Pourquoi je fais tant de trucs, moi aussi, à ce moment-là? Pourquoi je me suis réinvesti? Parce que je me dis, il faut que je mette un toit sur la maison. Exactement. Et il faut que je bosse. Et il faut que je gagne du pognon. Et donc, je vais faire des trucs que j'aime pas forcément.
Exactement.
Et me surinvestir parce que ce surinvestissement, c'est une course en avant parce qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre, quand on n'est pas héritier, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, de faire ça. C'est là où ce qu'on vient d'entendre grâce à Raphaël est absolument passionnant, parce que on voit comment quelqu'un qui travaille dans les RH, un journaliste, un policier, en viennent à utiliser quasiment les mêmes termes, et on en revient tous les trois à nous demander à la fin pourquoi on a voulu d'en faire.
Évidemment, tout le monde a besoin d'un toit, tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de gagner de l'argent, mais il y a un besoin fondamental de l'être humain, au-delà de la nourriture et au-delà d'avoir froid
ou reconnaissance.
Chaud, c'est la reconnaissance.
C'est
de se sentir compétent. Et ça, des petits-enfants, le petit nourrisson que je prends toujours en exemple, si on ne lui donne pas l'idée qu'il est compétent et qu'il est reconnu, il se laisse mourir déjà d'épuisement.
Mais vous êtes sûr de ça, Serge Effes, parce qu'on peut aussi avoir en soi une satisfaction liée à son travail qui finalement ne requiert pas nécessairement le regard extérieur pour continuer à avancer.
Vous savez, pour avoir ce regard intériorisé qui fait qu'on va se reconnaître soi-même, il faut avoir bénéficié de cette reconnaissance qui permet de se sentir compétent. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert évidemment progressivement avec les années et qui se perd très facilement dans ces situations justement où on n'est pas reconnu par les autres autour de soi, et surtout dans ces métiers policiers, pompiers, dans le soin, etc., où si on faillit pour soi-même, on faillit aussi dans cette mission qu'on a vis-à-vis des autres.
Nous avons Eric qui nous appelle de Bourg-en-Bresse. Bonjour Eric. Eric n'est plus là, mais nous avons Cécile qui nous appelle de Paris.
Oui, bonjour.
Bonjour Cécile, nous vous écoutons.
Moi je souhaitais témoigner. Donc en fait, j'ai fait un burn-out. Avec un peu de recul, je définirais comme ça, en fait. Je suis en dépression profonde suite à un burn-out.
Voilà, très bien.
C'est-à-dire que le burn-out, c'est l'explosion. Et puis la dépression, c'est l'état dans lequel vous êtes après l'explosion.
Exactement.
Et alors, moi, ça commence à faire un petit peu de temps. Je retrouve un tout petit peu de lucidité et j'essaie de me projeter. C'est-à-dire, on me demande souvent quand je vais reprendre le boulot. Une question, voilà. Donc, quand tu vas reprendre le boulot, comme si c'était bon, j'aimerais bien, voilà. Et en fait, le truc vicieux là-dedans, c'est qu'en fait, reprendre le boulot, alors ok, mais dans mon ancienne entreprise, où je vais être finalement l'incarnation vivante d'un dysfonctionnement. Alors, est-ce que, vous voyez, il y a une grande solitude et une grande précarité et une grande inquiétude liée à ça. Je vais retourner dans mon entreprise, je me suis cassé, pardon l'expression, mais je me suis cassé la gueule parce que ça fonctionnait pas correctement. J'en suis le témoin. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pas remettre le système en question parce que une personne s'est cassé la figure, donc ils vont me remettre en question à titre personnel.
Donc aujourd'hui, vous êtes arrêté et vous ne voyez pas effectivement comment revenir à votre travail, Cécile Guy Birenbaum.
Ça, c'est très intéressant parce que je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai quitté mon travail. J'étais dans une autre radio. Je suis parti. Pourquoi ? Parce que Moi, j'ai de la chance. Je suis un privilégié. Je suis quelqu'un qui peut raconter ce qui lui est arrivé. J'ai été formidablement entouré, médicalement, affectivement, amicalement. Un patron m'a fait la confiance de prendre un type qui était au bout du rouleau et d'accepter qu'il quitte son travail. Ce qu'elle explique là, et qui est quand même terrible, parce que ce sont ces gens qui sont dans la solitude et qui n'ont pas la chance que moi j'ai eue. Et mon témoignage, il est là pour ça. Il est là pour faire un petit coucou à ces gens-là et pour leur dire que, ben voilà, il y a un moment, la lumière revient. Mais si on n'est pas formidablement aidé, ben cette lumière, c'est très difficile.
Mais à la fois, vous, dans votre premier travail à Europe 1, dans celui qui vous a conduit, dites-vous, Guy Birenbaum, au burn-out, vous ne manquiez pas de reconnaissance ou je vous ai mal lu ?
Ah, si, il y a quand même un moment où je suis chroniqueur le matin. Et il y a un moment où je vais quitter le matin et me retrouver le soir. On parlait avec le docteur de reconnaissance. Je vis ça, a posteriori, je peux l'analyser, comme un traumatisme. Bien sûr que oui.
Aude Célie.
Il y a des choses qui effectivement, qu'il faut retenir. Et comme disait Guy, alors, première chose, il y a l'isolement. L'isolement pousse déjà au suicide, mais effectivement fait qu'on n'a pas de soutien pour pouvoir s'en sortir. Il est indispensable d'être accompagné au moins par un professionnel de santé. Et encore, des personnes qui sont suivies par des professionnels de santé ne se sentent pas compris et ne se sentent pas forcément entendues. Et je voudrais juste en revenir sur les besoins de reconnaissance. Je vais pas revenir sur la théorie de Maslow qui est l'échelle des besoins humains, où on parle effectivement des premiers besoins qui sont physiologiques, ensuite donc d'appartenance, d'estime de soi. Donc c'est ancré en nous, c'est ancré dans la société, que la reconnaissance fait partie de la théorie de la motivation et qui permet de se tirer vers le haut.
Nous avons Marie au standard qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons Marie.
Voilà, je vous appelle en fait parce que je suis infirmière, je travaille dans un centre médico-psychologique. Donc j'appelle en tant que professionnelle pour témoigner du fait qu'on reçoit, je trouve, de plus en plus de personnes qui souffrent de burn-out professionnel et qui, à mon sens, malheureusement, se présentent toujours pour une prise en charge quand il est trop tard. C'est-à-dire quand elles sont vraiment déjà extrêmement détruites par la pression qu'elles ont subie au travail, parfois aussi par un harcèlement moral au niveau du travail. Et puis, quand on parlait un petit peu de fragilité, je trouve qu'on a beaucoup de personnes qui sont effectivement dans un besoin, vous en avez parlé, de reconnaissance qui est très fort et qui les amène à s'engager, je dirais, sans limite au niveau professionnel et qui s'en épuisent et qui viennent consulter quand c'est souvent, je dirais, trop tard. Et du coup, la reconstruction est extrêmement longue. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est des prises en charge qui peuvent être sur plusieurs années, où l'estime de soi est complètement dégradée, il n'y a plus de capacité de se concentrer, toutes les tâches qui étaient relatives au travail, même au niveau personnel et quotidien, que ce soit social, administratif, deviennent insupportables, et c'est extrêmement long à se reconstruire. Donc c'est vrai que si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, c'est de
consulter à temps.
Qu'elles ont des signes en fait d'épuisement, de ras-le-bol professionnel, qu'il faut vite consulter parce que comme vous l'avez bien dit, un traitement et une prise en charge psychothérapeutique est nécessaire pour justement faire comprendre comment le travail est investi en fait.
Effectivement, Serge Effèze, alors on se pose tous et à nouveau la question, quels sont les signes qui doivent alerter ?
Oui, Marie a tout à fait raison, mais je dirais que le fait de consulter est trop tard, ça fait partie justement de ce syndrome d'épuisement professionnel. Parce que tous ces signes-là, qui est ce sentiment d'incapacité, les insomnies, l'irritabilité, vous l'avez dit, des signes physiques, le mal de dos, etc. La sentir d'en avoir plein le dos dans tous les sens, dans tous les sens du terme, eh bien, on les reporte sur soi-même, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on en est responsable et on se dit qu'on ne vaut même pas la peine d'être aidé, d'être soigné.
Michel nous dit, suis-je susceptible d'être victime d'un burn-out ? Je travaille 80 heures par semaine, je suis éleveur, j'adore mon métier, je n'ai pas pris de vacances depuis 4 ans. Est-ce que lorsqu'on aligne ce type de chiffres qui donne un peu le vertige, est-on en risque d'être victime ?
Sans blague.
Si vous voulez, les risques ne sont pas tous objectifs. Évidemment, s'il travaille 80 heures par semaine, il va être plus en risque que quelqu'un qui travaille 35 heures. Mais là, il y a une inégalité par rapport à ça, dans le fait d'aimer son travail, d'y trouver tout un tas de satisfaction, d'y trouver tout un tas de reconnaissance. Et peut-être que cet homme va traverser toute sa vie professionnelle de cette façon-là, sans faire d'épuisement.
Dis bien de beau. La question est touchante, mais ce qu'on peut dire, je crois, Alice et moi, c'est que jamais... Aude, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Alice depuis tout à l'heure. Mais c'est joli, Alice aussi. Aude et moi. Aude, pardon. C'est que jamais on n'aurait imaginé ni l'un ni l'autre que ça pouvait nous arriver.
Et aujourd'hui, Aude Célie, qu'est-ce que vous vous imaginez ? Est-ce que vous vous en êtes sortie ? Est-ce que vous avez tiré les leçons de cet épisode ?
Alors, oui, déjà. Déjà, c'est derrière moi, mais évidemment, c'est entre guillemets... une épreuve qu'on ne peut pas oublier, et je n'ai pas envie de l'oublier, parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai monté 3 formations, qu'aujourd'hui, je veux intervenir dans les entreprises pour former les personnes, les managers en l'occurrence. Il y a vraiment la reconstruction, et c'est, je sais plus qui a témoigné, mais je crois que c'est clair, hein. Plus longtemps on a tenu, et plus longue sera la reconstruction. Donc ça, c'est important de le savoir.
Guy Birenbaum, vous, votre conclusion, puisque finalement, qu'est-ce qui a changé dans votre vie aujourd'hui ?
Tout. Oui, tout. Absolument tout. Je ne suis plus la même personne, je ne fonctionne plus du tout de la même manière. Mon rapport à mon travail est totalement différent. Mon rapport au mien est totalement bouleversé, modifié. Tout a changé.
Tout. Et on lit ça dans votre livre « Vous m'avez manqué, histoire d'une dépression française aux éditions des Arènes » et dans l'ouvrage d'Aude Célie « Quand le travail vous tue, histoire d'un burn-out et de sa guérison » aux éditions Maxima. Vous avez également un site internet Aude Célie sur lequel on peut aller piocher des informations, mission-rh.com. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Voici maintenant le mot du psy.
Voilà, donc inconscient et subconscient, c'est une question de souplesse. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients, maintenant on réfléchit bien sûr, et trois conscients et subconscients, hein, tout dans les genoux.
Tout autre chose, Serge Effèze, le débat sur l'accompagnement sexuel tarifé des personnes handicapées est esquivé en France depuis des années, et justement l'essayiste Marcel Nuss, l'un de ses plus fervents défenseurs, publie son autobiographie dans l'espoir de faire changer les mentalité sur cette question assez délicate.
Oui, Marcel Nuss, cet écrivain d'une 60aine d'années, est une des figures emblématiques de la lutte pour les droits des personnes handicapées. Atteint d'une amyotrophie spinale infantile, il est totalement immobilisé et souffre d'insuffisance respiratoire. Père de 2 enfants, il a été marié puis divorcé. Aujourd'hui, il vit avec une nouvelle compagne et se félicite d'avoir une vie sentimentale et sexuelle très épanouie. Il lutte depuis de nombreuses années pour que l'ensemble des personnes handicapées puissent avoir la même chance que lui. Car en effet, Guillaume, comment aider des femmes et des hommes privés d'autonomie, incapables de bouger sans l'assistance de quelqu'un, et donc dans l'impossibilité d'explorer leur corps, et encore moins le corps d'un ou d'une partenaire, à découvrir les sensations agréables que ce corps meurtri peut aussi leur procurer. Et surtout, comment le faire si cette personne handicapée n'est entourée que de proches, famille, amis, soignants, que ses désirs ne regardent pas et qui préfèrent ne rien en savoir ? Eh bien, dans de nombreux pays autres que la France, on a depuis longtemps répondu à cette question en ayant recours à des assistants, des aidants sexuels qui sont formés à l'approche de la sexualité des personnes handicapées et qui sont rémunérés pour les aider à explorer leur corps et à éprouver du plaisir.
Et alors, quelle est justement, Serge, la situation française vis-à-vis de cette assistance sexuelle ?
Eh bien, en France, le débat sur l'assistance sexuelle des personnes en situation de handicap est promis depuis des années, mais soigneusement esquivé. Même François Hollande s'était ému de ce sujet en 2012, promettant un vrai débat public, avant de se rendre compte que de tenter de réaliser le plaisir pour tous pouvait lui faire valoir quelques ennuis et d'enterrer le projet. La France reste ainsi un des rares pays occidentaux à laisser les handicapés se débrouiller avec leur solitude et leur frustration, le tout, comme toujours, au nom du principe souverain de la non-marchandisation des corps. Mais ce faisant, c'est toute l'invisibilité du handicap qui est encore une fois de mise et une condescendance paternaliste dans la manière de les considérer. Du fait de leur état de totale dépendance, les handicapés sont souvent représentés comme des enfants qu'il faut protéger de l'excitation ou des anges qui ne seraient habités par aucune pulsion, ou encore à l'inverse, avec une sexualité monstrueuse parce qu'en dehors des codes d'une sexualité dite normale. Ange ou démon, abus ou contrainte, on préfère ne rien voir et ne rien savoir. Résultat, l'assistance sexuelle divise et les prestations tarifées sont assimilées à la prostitution. Les parents, auxiliaires de vie, directeurs d'institutions qui mettraient en relation assistance sexuelle et personnes handicapées risquent des poursuites pour proxénétisme.
Mais alors, on ne peut pas faire comme si le fait de monnayer les échanges sexuels, Serge, ne posait pas problème.
Bien sûr, dans un monde idéal, il serait plus noble de permettre une ouverture de la société qui ferait que les personnes handicapées pourraient faire plus de rencontres et ne pas se sentir réduits aux seuls besoins sexuels à assouvir. Mais en attendant, ceux qui ont côtoyé et formé ces aidants sexuels savent qu'ils font preuve d'une grande humanité, de tact, de douceur et d'une profonde connaissance de la sexualité dans tous ses aspects. Deux formations ont déjà eu lieu en France et on peut parler véritablement de vocation pour les personnes qui y participent. Car c'est une pratique qui existe déjà, mais dans l'ombre et en dehors de toute reconnaissance. Dans certains établissements, des contacts sont laissés à disposition des résidents. En attendant, le secrétariat d'État aux personnes handicapées ferme ses portes en déclarant « Réglementer des rapports sexuels tarifés, c'est interdit par la loi », laissant, comme d'habitude, les parents et les accompagnants se débrouiller seuls avec cette embarrassante question.
Merci Serge Effez, à la semaine prochaine. Bonjour Nagui.
Bonjour Guillaume.
La bande originale.
On va légèrement changer de sujet puisque nous allons parler du blaireau Bernard Hinault qui est notre invité, cette grande star évidemment.
Bernard Hinault est des vôtres.
Absolument.
Et vous allez donc être à ses côtés.
Vous allez
essayer de pédaler plus vite que lui.
Non, j'essaie de moins pédaler que d'habitude surtout.
Bon, mais on vous écoute. C'est dans gentil. Votre effort tout de suite après le flash, Nagui.